Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, le Kurdistan syrien se prépare à une invasion de l'armée turque.
Oui, ses habitants et les combattants du YPG, les unités kurdes dites de protection du peuple, sont prévenus. Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché ses intentions, ni la réunion récente de son conseil de sécurité, composé de dirigeants militaires et civils qui tous ont donné leur accord. Pour le pouvoir turc en mal de popularité dans son propre pays à un an des élections, il s'agit officiellement, je cite, de débarrasser sa frontière sud de la menace terroriste, mais aussi de permettre à des milliers de Syriens qu'il a accueillis de rentrer chez eux. L'objectif est donc d'agrandir, plus exactement de prolonger la zone de 30 km de large que la Turquie avait déjà conquise en 2019 et dont elle avait fait une zone tampon. Bonjour Ardimed.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques rattaché à l'Université Paris 1. Ardimed, pour qu'on comprenne bien l'objectif de Recep Tayyip Erdogan, d'un point de vue, disons, territorial, qu'est-ce qui intéresse le président turc? Jusqu'où veut-il faire avancer ses troupes?
Oui, en fait, je précise que cette opération qui a été décidée le 23 mai et ensuite, trois jours après, entérinée par le Conseil national de sécurité de l'État turc, s'inscrit dans celle qui a eu lieu en 2018 et qui a abouti à l'occupation de la province d'Afrine, l'une des trois grandes provinces de Rojava. Et puis aussi dans celle de 2019 qui a abouti à l'occupation de deux localités extrêmement importantes dans le nord-est de Rojava, à savoir Ras El Ain et Talabiyat. Donc cette opération qui devrait se faire dans les prochains jours, je dirais, vise deux objectifs importants. D'une part, s'il s'agit d'élargir, comme vous l'avez dit à l'instant, d'élargir ce territoire qui est la continuité de Ras El Ain et Talabiyat, dans le nord-est de Rojava, dans l'objectif de faire rentrer les réfugiés syriens dans cette zone de tampon qui a été depuis très longtemps convoitée par la Turquie, parce que nous n'oublions pas que les réfugiés syriens en Turquie c'est devenu en fait, si vous voulez, un enjeu électoral très largement politisé, et donc aujourd'hui la partie AKP est confrontée à une critique sociale importante à l'intérieur de la Turquie. Donc l'État, il essaie de se débarrasser de réfugiés à tout prix, et donc il essaie de les faire ramener en Syrie. Donc cette opération, c'est justement pour élargir dans cette zone tampon. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, l'objectif principal, c'est aussi de remettre en cause la cohésion, si vous voulez, territoriale et administrative du Rojava. Pourquoi? Parce que cette opération qui vise Ain Issa, Tal Rafat, et puis jusqu'à Manbij, si cette opération atteint cet objectif, c'est-à-dire jusqu'à Manbij, et puis il contrôle l'autoroute M4, eh bien il va briser la continuité territoriale entre les deux grandes provinces du Rojava, à savoir Kamishlo et Kobané. En fait, dans cette situation, Kobané sera complètement siégée par cette opération. Hein. Donc on se demande si cette ville qui a été arrachée des mains de Daesh en 2015, avec l'aide de la communauté internationale, comment on va survivre dans ce cas.
Alors, donc voilà. Oui, Ardimed, pardon, je vous coupe parce que vous avez donc mentionné un des objectifs de cette opération, c'est de l'argument des migrants syriens avancé par Recep Tayyip Erdogan, il faut les faire rentrer chez eux. C'est vrai que la Turquie a accueilli 3 700 000 réfugiés syriens, mais chez eux où? Est-ce que les villages de cette région sont prêts à accueillir des familles syriennes? Est-ce que certaines d'entre elles en sont originaires?
Pas vraiment. Ces réfugiés ne sont pas nécessairement originaires de là où l'État turc essaie de les installer. En fait, c'est l'objectif, comme on l'a dit, c'est juste de faire entrer ces Syriens en Syrie et puis à n'importe quel endroit, premièrement. Deuxièmement, donc pour vous dire qu'ils ne sont pas vraiment originaires de là où ils sont en train de les installer, premièrement. Et deuxième chose, c'est que les villages et ces zones tampons n'est pas nécessairement prête à accueillir ces familles, puisqu'il y a beaucoup de manquements dans le service public. Il n'y a pas de service public, si vous voulez. Il y a beaucoup de problèmes donc liés à la sécurité, pas d'électricité, etc. Donc là, je ne suis pas du tout sûr que ces villages qui se trouvent dans cette zone tampon soit vraiment prêt à accueillir ces familles.
La Turquie prévoit de construire 200 000 logements donc dans des zones sûres, dit-elle, près de la frontière. Elle envisage de construire 13 villes pour accueillir ces réfugiés syriens. Une a été inaugurée déjà il y a 15 jours par le ministre turc de l'Intérieur. Est-ce qu'on sait à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle a été construite ex nihilo? Est-ce que des familles y sont déjà installées?
Oui, effectivement, vous parlez de la ville Al-Kamounam qui se trouve au nord d'Adlib. C'est une ville qui a été, enfin, selon un accord qui est signé entre la Russie et la Turquie, cette ville est devenue une zone de désescalade et en quelque sorte démilitarisée. Donc auparavant, c'était un camp. Il y a beaucoup de familles qui vivaient sous les tentes. Et par la suite, après cet accord, la Turquie a créé des logements extrêmement rudimentaires. D'ailleurs, c'est des relogements qui n'arrivent pas au froid de l'hiver, ni aux grandes pluies, parce que moi j'ai eu pas mal de témoignages venant de ces familles qui vivent aujourd'hui à Al-Kamouna, au nord d'Adlib. Mmh. Les gens y souffrent pendant l'hiver parce que voilà, les logements ils sont vraiment très rudimentaires. Premièrement. Et deuxièmement, il y a beaucoup de manquements aussi dans le service public. Il y a un manque de médicaments, d'électricité, etc. Sur le plan sécuritaire, ça devrait aller puisque c'est devenu une zone de désescalade. Mais il y a vraiment ce problème auquel un problème, disons, lié au service public auquel ces familles sont confrontées.
Alors, Ardim Ed, le pouvoir turc avance comme autre raison de pour assurer une continuité territoriale le long de sa frontière avec la Syrie et donc mener à bien cette invasion, cette opération militaire dans le nord de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan argue d'attaques récurrentes, dit-il, du YPG, donc les unités de protection du peuple kurde contre l'armée turque, notamment depuis la localité de Kobané avec des attaques aux mortiers. Mais quelle riposte les Kurdes sont aujourd'hui capable de mener face à une offensive turque, eux qui avaient pu résister 3 jours en 2019. Là, quelles sont leurs forces?
Dans votre question, il y a deux parties. Si vous voulez, la première partie, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse ou de frappe militaire depuis les territoires de Rojava contre l'armée turque. C'est plutôt, il y a des affrontements réguliers entre les YPG, l'unité de protection du peuple, et puis les proxys, enfin les groupes djihadistes liés, enfin soutenus par l'armée turque. C'est pas directement avec l'armée turque. Et deuxième chose, les forces démocratiques syriennes, les FDS, c'est une force importante composée d'Arabes, des Kurdes et puis d'autres minorités vivant à Rojava, sont prêtes à faire face à cette opération militaire, mais on sait pertinemment que ces forces n'ont pas nécessairement les moyens nécessaires, ni des moyens humains et ni des moyens militaires pour faire face ou pour opposer une résistance importante face à l'opération de l'État turc. Je pense qu'il y aura une résistance, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retirer tout de suite, mais ils sont pragmatiques aussi. Je suis pas sûr qu'ils résistent qu'ils se maintiennent dans cette zone. Hein. Je pense que ça devrait à peu près, c'est le même scénario que de 2019, c'est-à-dire peut-être pendant plusieurs jours symboliquement, sur le plan symbolique, c'est important, ils vont résister pendant quelques jours, mais après ils vont se retirer.
Alors, les Kurdes, ils sont très occupés par ailleurs, ils sont accaparés par la lutte contre l'État islamique. On a bien vu fin janvier quand la prison d'Assaka sur le territoire autonome du nord-est de la Syrie, que vous appelez donc le Rojava, hein, je rappelle que c'est bien ce Kurdistan syrien, quand la prison a été prise d'assaut par Daesh qui attendait de faire s'évader près de 4000 djihadistes détenus. Et par ailleurs, les Américains ne sont plus là pour soutenir les Kurdes face à l'État islamique, ou en tout cas ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, près de 1000 soldats dans l'est de la Syrie. Vous disiez, Ardim Ed, vous parliez des groupes djihadistes soutenus par l'armée turque. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces soupçons qui sont portés notamment par certaines ONG selon lesquelles la Turquie aiderait en sous-main l'État islamique à se battre contre les Kurdes, à lui fournir notamment un soutien financier? Est-ce à dire qu'une invasion turque de cette partie du nord syrien qu'elle ne contrôle pas encore favoriserait Daesh?
Je pense que cette opération, c'est justement... qui est prévu dans les prochains jours, posera un problème au niveau de sécurité. C'est l'une des préoccupations pour les autorités locales du Rojava. Ils le disent clairement que cette opération va renforcer, favoriser l'État islamique qui sont un peu partout et qui disposent des cellules dormantes dans Rojava lui-même. Et donc, je pense que oui, d'ailleurs, l'opération qui a été faite contre la prison Gouiran, dont vous avez parlé tout à l'heure, à Hasake, c'était une opération extrêmement importante. Cette opération, selon les sources locales, a été, en quelque sorte, soutenue, épaulée par l'armée turque, d'ailleurs même par le service de renseignement turc, parce qu'une telle opération de cette envergure, c'était pas du tout possible à mener à Hasake. Donc je pense qu'il y a eu un soutien de la part peut-être de la Turquie dans cette opération. Et d'une manière générale, je pense que il y a toujours des liens entre ces groupes djihadistes, pas seulement l'État islamique, aussi il y en a d'autres groupes djihadistes comme Ahrar al-Sham ou d'autres qui sont plus ou moins encore liés à l'armée turque. Et je pense que l'État islamique va tirer des avantages importants dans cette déstabilisation qui va se produire dans les prochains jours à Rojava, puisqu'ils ont des cellules dormantes dans les villes. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de témoignages, en fait, avec les Syriens. L'État islamique, à travers ces cellules dormantes, souvent, il vise les agents et les fonctionnaires de l'administration de Rojava. L'objectif, c'est de mettre...
On arrive à la fin de cet entretien. On n'a pas pu mentionner notamment le fait que des agents turcs en attendant du contre-terrorisme ont annoncé la semaine dernière l'arrestation du troisième calife de l'État islamique, Abu Hassan al-Hashemi al-Kourachi, à Istanbul, et que par ailleurs la Turquie avait déjà menacé d'une invasion du nord de la Syrie en octobre dernier, invasion qui n'avait finalement pas eu lieu, mais le contexte aujourd'hui lui est davantage favorable puisque l'attention de la Russie notamment est concentrée sur l'Ukraine, et surtout ça lui donne un moyen de pression face à l'OTAN qui veut intégrer la Suède et la Finlande. Or, la Turquie accuse la Suède de loger des terroristes kurdes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Hardimet, ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques rattaché à l'Université Paris 1.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et de nouveaux enjeux internationaux. Julie Gacon à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.